Paul Sécu, épisode technique, je second de Frank.
Oui, salut Nicolas, bonjour tout le monde, ravi d'être de nouveau avec vous pour cet épisode de revue de fin d'année, oui. Comme c'était précisé, hein, 2023.
On va compléter l'année avec une semaine qui sont un peu plus libres, contrairement à des sujets qui sont généralement plus structurés. On va faire un recap, comme tu m'as mentionné, sur 2023, grosse année. 2024 risque d'être aussi une plus grosse année encore, mais à chaque année, ça fait juste grandir, puis on bâtit là-dessus. Tu avais notamment 10 sujets, mais on va en aborder quelques-uns en discussion libre, fait que je vais commencer avec le premier, puis ben, on va aller avec ça.
Oui, ben écoute, je peux lister les 10 sujets. Ben, les 10 sujets, c'est pas 10 sujets au hasard, c'est simplement le fait est que j'ai essayé de regarder, à la différence de regarder les OASP ou de regarder les CVE ou de regarder les top 10 des choses qu'on a l'habitude en AppSec ou même le top CIS là en cloud, là, ça change un peu. On va dire, on fait une overview un peu plus sur le côté général des points et c'est rigolo parce que en 2023, et à cause de quoi? Parce que évidemment, ChatGPT est arrivé. Enfin, en tout cas, le gros buzzword de l'IA, on peut pas l'effacer, celui-là, hein, de novembre 2022 pour 2023. Je crois que ça a refait tout l'aspect buzzword. Et je crois qu'il y a beaucoup de nombreuses compagnies. D'après ce que j'ai appris, c'était l'équivalent de, je sais plus, 8000 startups aux États-Unis, hein, d'après ce que j'ai compris, en moins d'une année, je crois, sur tout ce sujet. Et je sais plus, pas loin, j'ai vu un chiffre tourner. Je sais pas si c'est une rumeur, mais d'un peu plus de 50 000 entreprises au travers de la planète qui tourneraient de près ou de loin sur l'IA et qui étaient déjà là, mais qui sont là plutôt des nouvelles sur des sujets bien précis. Et évidemment, on n'a pas raté les ChatGPT, les mid-journées de ce nom. Je crois qu'il y en a deux entre nous l'utilisent pas mal à date, ou comme Stable Diffusion qui est open source et ainsi de suite. Et donc tout ça redonne évidemment une sorte de tirage de cartes sur les fameux menaces. Puis là, je parlerai plus de menaces que de trous de sécurité, mais de menaces de cybersécurité. Et sur le top 10 que je te disais, bah, le premier en date est le social engineering. Le social engineering est toujours il a de surcroît. Je pense aussi peut-être que l'IA n'est pas évidemment en reste à cause de ça, pour des raisons évidentes que là, le phishing peut se faire de manière beaucoup plus structurée. On avait évidemment déjà des aspects plus faciles de le faire parce qu'il y a déjà eu tout ce qui était clone pour se faire simuler de grosses boîtes. Et puis bon, on a évidemment de plus en plus que le phishing est une sorte de guerre. C'est que comme ça qu'il y a en black box, hein. Vous savez que je fais toujours ma fameuse gueulante du black box, grey box et white box en cloud. Ou attention, hein, vous entendez quelqu'un vous parler qu'il y a des brèches dans le cloud, demandez-lui son contexte. Et la plupart du temps, à 98%, je mettrais même 99 sans mettre ma main à couper, c'est du white box qui est fait à date, donc misconfiguration, ou que je suis à l'interne, ou que j'ai des droits, ou je parle de choses, mais black box dans God, dans la rue, ça marche pas pour autant. Et donc là, bah, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut attaquer, c'est du black box qui est fait, c'est le social engineering qui revient.
Ouais, je vais rebondir là-dessus, puis c'est un peu malheureux parce que c'est beaucoup de sensationnalisme des médias qui fait que justement on prend du white box pour en faire un cas exceptionnel quand dans les faits c'est un cas plutôt pour des experts, c'est un cas plutôt banal puisqu'il n'existe pas dans la nature du fait que justement c'est du white box, pas du black box, puis ça nous permet pas d'aller vraiment de le faire exactement, puis ça l'oublie qu'il y a un kill chain qui vient avant, donc il y a des étapes pour arriver à faire ce qui est mentionné dans cette espèce de grande chose que les gens sont tout contents de mettre dans les médias. Mais le social engineering, comme tu mentionnes, est probablement une des premières étapes et il est encore ultra efficace. Le AI va aider ce genre de choses-là à créer des textes encore plus convaincants pour faire croire aux gens qu'il y a un prince nigérien qui a de l'argent à leur donner.
C'est ça. Bah, disons qu'en fait, la notion de convaincre, évidemment, comme on se l'était déjà dit, je crois, dans un des podcasts sur lequel on avait un peu, parlé, ou en tout cas mis en sujet le AI, c'est que même quand il a tort, il est super convaincant, ChatGPT. Ça, c'est peut-être pas dans la version 4 maintenant, mais dans les versions 3 et 3.5, c'est incroyable. Même s'il se trompait, on avait l'impression que c'était nous qui étions idiots et lui qui, évidemment, disait la vérité. doute bien qu'en phishing, c'est cool. La notion aussi des problèmes typo qu'on n'a plus avec un chat GPT ou qu'on n'a plus avec éventuellement un DeepL ou un truc. Donc, tout ce qui est les notions aussi de pouvoir targeter au travers de la langue n'est plus un souci. Et donc là, le chiffre qui est sorti par Verizon, Verizon a sorti que 85% de toutes les brèches et les interactions en 2023 se sont faites par du social engineering, par du phishing et par l'humain interaction. Donc ça, c'est énorme. Et ce qui est amusant sur ces 85%, c'est 75% par email. Donc pourquoi l'email, l'hygiène est évidemment intéressante. Puis ce que je vous amène un peu plus, puis ça pourquoi, c'est parce qu'on en a parlé au podcast déjà, mais surtout j'ai fait une des plus grosses présentations au Sécur en 2022, c'est ma présentation Bitcoin. Eh bien, la partie des cryptocurrencies au sens large, puis là je parlerai pas de shitcoin ou autre, je parle de Bitcoin et de crypto-monnaie au sens large des projets, bah là il y a une augmentation de 200% en 2023. Du fait que, bah là, puis vous l'avez vu, Bitcoin est remonté, on est reparti sur un bull run, donc on est reparti en tout cas sur un simili bull run sûrement qui va arriver, puisque le halving arrive au mois d'avril prochain. Donc là, évidemment, bah là, il y a des surcroîts de dire, bah, si on veut gagner de l'argent rapidement, en plus, dès que Bitcoin augmente, hein, on est passé de 20 000 dollars à plus de 40 000 dollars, si je parle en US, donc ça fait pas loin de 60 000 en canadien aujourd'hui, où il était à peine à 27-28 en canadien il y a encore 3-4 mois. Donc là, c'est des ratios énormes. Et toutes les autres crypto-monnaies en sont aussi. Donc la blockchain, les crypto-monnaies, là, il y a un surcroît de 200%. Puis je peux vous assurer que là, Do Network, je ne sais pas si vous connaissez, mais DO Network a été une des plus grandes, malheureusement, arnaques qui a été montée et qui n'est pas spécialement plus arrêtée, qui est juste renommée et compagnie. Tout ça, encore une fois, par du social engineering. L'argent facile. L'argent n'est jamais facile. S'il y a de l'argent facile, il y a de la perte facile et le ratio est exponentiel et prend évidemment les démarches. Donc faites attention. Gardez encore une fois vos cold wallets, gardez vos custodian wallets vous-même ou utilisez des entreprises qui ont pignon sur rue avec des choses genre bancaires si vous pouvez. C'est assez rare. Mais si c'est pas le cas, bah, y a des sociétés canadiennes aujourd'hui qui permettent d'avoir aussi de la crypto, même si vous n'êtes pas self-custody, mais avoir le custody chez eux, mais peu importe, le but du jeu, ils sont gérés par l'OMF, gérés par l'OCPVM, gérés par des systèmes qui font que si eux commencent à voler ce genre de choses, je peux vous assurer qu'il y aurait d'autres problèmes à date. Donc, tout ça fait partie un petit peu du système social engineering et de ce qui s'est vraiment passé en 2023 à ce niveau-là. La deuxième...
Ouais, je reviens encore sur le social engineering, c'est vraiment les courriels sont de plus en plus convaincants. Même les experts en cyber se font piéger maintenant parce que les courriels sont rendus tellement bons, notamment à cause du AI, mais pas juste à cause du AI. On est capable de se faire avoir par des structures parce que les malveillants ont compris, là, tu parlais des bitcoins notamment, ben, on revient, faites affaire avec des entreprises de confiance dans le vrai monde. La dématérialisation des limites et l'établissement de la confiance dans le numérique et pas tout à fait encore mature pour qu'on puisse arriver à quelque chose de vraiment intéressant où on peut faire au même titre qu'on peut faire confiance à notre banque, on peut se faire confiance à ce genre de choses-là dans le numérique, ça n'existe pas parce qu'à la banque, dans l'absolu, quand ils veulent vérifier notre identité, ben ils disent « présente-toi en personne avec ta pièce d'identité ». Donc, on est dans un contexte de cette structure-là. L'identité numérique notamment, on en parle au Québec parce qu'on essaie d'en développer une. C'est pas encore tout à fait rendu. J'espère que ça va se rendre à un moment donné, mais c'est pas tout à fait là. Certains autres pays européens ou dans l'Europe de l'Est en ont. Des structures plus matures qui permettent d'aller plus loin, justement, d'aller de cette vérification-là, mais on n'est vraiment pas là. Fait que soyez prudents. Puis, de toute façon, dans l'absolu, si c'est trop beau pour être vrai, c'est justement trop beau pour être vrai.
Oui, c'est l'adage de dire que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça marche toujours, évidemment, d'une autre manière. Mais c'est vrai que les KYC sont maintenant utiles, évidemment. La notion puis là, pas mal de petits sujets qu'on voudrait passer, mais très rapidement, le KYC où il y a des sociétés très, très pointu là-dessus, où les banques, des fois, ne sont pas là. Les banques ont d'autres aspects que si vous allez, quand vous suivrez ma présentation Bitcoin, vous comprendrez que les banques sont pas toutes claires pour différentes raisons, mais c'est la monnaie au sens large, c'est notre politique, et là, on va beaucoup plus loin. Mais l'aspect, évidemment, de la sécurité, de dire je veux mon anonymat ou je veux dépenser mon argent comme il le faut, il y a des moyens de le faire, mais surtout, faites attention que les moyens trop beaux sur du social network, principalement, c'est surtout ça que je veux préciser, puisqu'on parle de social engineering, c'est que vous ne faites pas du truc network à l'Instagram, dans du Facebook que je te renvoie dans une application obscure et qu'en plus vous téléchargez pas ça sur un Play Store ou un Apple Store. Stop. Arrêtez ce genre de bêtises. C'est pas la peine. Là, dès le départ, vous êtes d'entrée de jeu. Je dirais que c'est pas la crypto qui pose problème. C'est les outils que vous voulez avoir. C'est comme si vous me disiez, je prends une Porsche puis je vais faire du 4x4 en montagne avec. Bon, si vous revenez avec votre Porsche en entière, coup de bol, mais c'est pas le cas. Donc, ça, c'est important. Le deuxième content, deuxième menace, c'est la, qui a vraiment éclaté, depuis lors en 2022, 2023, mais surtout en 2023, c'est les third-party exposure, donc l'explosion des tiers-parties ou des parties tiers. Alors, le pourquoi? Je vais aller très vite avec cette partie-là, mais c'est parce qu'en fait, depuis presque maintenant 10 ans, les leaks ont été énormes. Je parlais des statistiques un peu en off, un petit peu avant. Je vais vous en donner quelques-unes en top breach pour 2023 avec Nicolas. En nombre d'incidents, rien qu'en novembre, on est à 470 incidents au travers de la planète, ce qui représente pour juste un mois 519 114 records de dégagés. C'est pas, si vous imaginez, là, à date. Si je prends le nombre d'incidents pour 2023, c'est 1404 incidents, ce qui représente cette fois-ci 5 951 000 et les brouettes, donc 612 884 records breachés, alors qui peuvent être démultipliés, qui sont souvent démultipliés. Tout le monde connaît Hash Bimponing, hein. Je vous dis tout de suite, tapez Troy Hunt et vous allez vite le trouver. Donc, testez vos comptes, testez vos affaires. Vous en avez d'autres, hein, Datalic, Ashes et ainsi de suite. Mais celui-là est un des plus gros. Il y en a d'autres derrière. Mais voyez, le biggest data breach, donc celui qui est le plus gros à date, c'est de Darkbeam. Darkbeam, c'est pour 3,8 milliards. Vous avez une base de données qui est découpée en, d'après ce que j'ai compris, en équivalent de 114 points tarzip, qui représente les 3,8 milliards de data, de records. Alors, ça peut être tout. Est-ce que c'est encore valable? Il en suffit que peu pour que ça soit valable. Et comme il le précise d'ailleurs dans les différents points, c'est que tout ça démarre évidemment avec aussi des comptes. Il y a plus de 214 millions de comptes Facebook qui ont été hackés, qui ont été leakés, que ça soit Facebook, Instagram et LinkedIn. Les problèmes aussi, évidemment, au niveau des accessibilités par rapport au multifacteur authentification, qui a été évidemment repris de plus belle à ce niveau-là, parce que la fatigue, la fameuse fatigue du two-factor, la fameuse façon aussi de l'accéder. Je pense que la Covid, mais là maintenant, il faut arrêter de lui remettre tout sur le dos, la petite merde, hein. C'est bon, je pense qu'on est passé après 2 ans, mais la Covid n'a pas aidé, donc il y a eu sûrement des mauvaises habitudes qui ont dû être faites. Donc, s'il vous plaît, passez surtout au niveau des cyberattaques à dire que vous êtes en multifactor, utilisez du push, utilisez éventuellement des clés, utilisez des keys, hein, puisque c'est, il y a que ça qui fonctionne. Dès que vous l'avez en main, ça permet aussi d'être encore mieux parce qu'au moins vous pouvez utiliser évidemment ce point-là. Je vous invite aussi que si vous avez même un seul compte Gmail, créez-en un autre, hein, ça coûte rien, puis faites-vous des renvois et des retours parce que comme ça Google va vous aider à évidemment gérer que l'un pourrait avoir accès à l'autre et ainsi de suite, puis donner des sorties possibles. Donc bref, le tiers parti est important, je pense qu'il faut faire attention à où on met, ça revient aussi, on en reparlera tout à l'heure sur le quatrième point, c'est que la partie évidemment de l'exposition au travers des tiers vous permet aussi de nettoyer. Souvent, je dis souvent, mais c'est marrant parce que quand vous avez des poubelles ou des cartons ou des choses à nettoyer chez vous physiquement ou un garage rempli de bidules et compagnie et que vous allez à la benne ordure ou à l'éco-centre, ça fait la même chose qu'il faut faire aussi. Si vous avez un compte et que vous n'y avez pas été depuis 8 mois, 1 an, 2 ans, effacez-le, détruisez le compte, détruisez le mot de passe que vous utilisez déjà même plus depuis longtemps. Ça vous permet aussi que si cette service-là est évidemment exposé, ça vous exposera pas un password reuse, un équivalent chose. Mais en tout cas, ça fait partie des menaces 2023 qui sont évidemment super, super importantes. la partie exposeur, évidemment, et
la, ouais, puis ça, pirate. C'est sans parler tous les cas de SolarWinds, puis il y en a eu d'autres de plus récents aussi qui sont beaucoup plus importants de cette exposition-là aux tiers parties, ou le supply chain aussi qui est énormément un problème qui est un peu une suite de ce que tu mentionnes. Puis on n'a pas arrêté, malgré que les États-Unis, avec un ordre exécutif, ont forcé le SBOM notamment. Même si ça a été fait comme ça, ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé, même à ce stade-ci. C'est pas facile faire du SBOM. C'est une volonté de la présence américaine d'un peu en vase clos, d'espérer que ça marche bien, comme ils ont fait avec, justement, dernièrement, avec les logiciels sécuritaires. Là, ils obligent de façon importante quand les logiciels soient développés de façon sécuritaire, fait que, sur des notions qui sont plus difficiles à mesurer. Mais c'est louable, mais c'est difficile. On n'est pas rendu là. Il faut faire des efforts. Il y a encore beaucoup de choses à faire en 2024.
C'est l'APSEC avec le SBOM que Nicolas parle. C'est le fameux Software Bill of Materials. En français, c'est Software Nomenclature. Il y a deux écoles qui se battent et effectivement, ça, c'est la suite logique de sécurité si on est en APSEC absolu, si on veut gérer ses licences, gérer ses dépendances, gérer toutes ses affaires pour éviter évidemment d'avoir des points. Mais ça revient à ma menace numéro 3. Et cette menace numéro 3, vous allez voir, elle est évidemment bizarre telle qu'elle est amenée, mais c'est la configuration, donc les manques de configuration mistake en anglais, donc les oublis de configuration ou les pertes de configuration. Et la misconfiguration aujourd'hui, selon un rapport qui est sorti de l'IRA Health, que je suis, c'est un groupe, moi je travaille aussi dans une structure qui a un peu beaucoup de rapports médicaux qui sont lié évidemment à la santé mentale. Il faut savoir, excusez-moi, il faut savoir que 81% des travailleurs actuels, ou en tout cas des travailleurs dans notre secteur tertiaire mais informatique, est dédié évidemment du secteur de la sécurité, sûrement suite aussi à la pandémie, ont eu des problèmes de santé mentale. Ça a généré que 65% d'entre eux, leur impact absolu sur leur, on va dire, capacité intellectuelle a fait que ça réduit leur performance professionnelle et que ça a malheureusement donné une pression supplémentaire à faire que tout ça a été exacerbé, évidemment, parce que la moitié des experts informatiques admettent qu'ils ne savent pas et qu'ils ne connaissent pas les outils de cybersécurité ou qu'ils n'ont peu de choses parce qu'en fait, ils les installent, mais j'ai mal à dire, je sais que je vais me faire encore lancer des tomates, mais la plupart du temps, et 7 ou 8 sur 10, c'est des secrétaires de lutte de Kali Linux, sauf qu'ils ne savent jamais comment les outils fonctionnent en arrière. Souvent, c'est pas des développeurs. Souvent, c'est pas des gens qui ont été dans le deeply du système, ou ils viennent pas de ce monde-là du fait de leur académie. C'est-à-dire que l'académie, au moins, et quand je dis académie, c'est diplômé cybersécurité, ou dans ce monde-là depuis l'origine, en travers malware, virus, gestion, segmentation, push OZ, quand je vois combien il y a peu de gens qui savent me les citer, les 7, au travers de la couche aux voulue, ou de savoir comment ça s'intribue, même avec éventuellement un mapping entre la couche aux et les couches top 10 OWASP, où on les voit, top 10 CVE, où on voit entre les périmètres réseautiques, et ainsi de suite, parce que des fois, c'est tellement plus ou moins un peu, pas obscur, mais gris, bah, il y a des fois des frontières un peu bizarres. Donc, tout ça a généré quoi? Bah, ça a généré aussi qu'il y a une génération cloud qui est arrivée, puis là, il n'y a pas d'école cloud. Loin de là, l'école cloud, bah, c'est à vous de vous remettre en question, c'est les trainings, c'est à soi-même de faire. On a de la chance des fois de partir avec le départ d'AWS ou la chance de partir avec l'écosystème Microsoft ou l'écosystème GCP. Quoi. Lui, il est un peu moins en avant dans le monde de l'industrie, enfin, je veux dire, dans le monde des entreprises. Et là, au travers de ça, bah, évidemment, ça génère encore une fois des impacts de, encore une fois, de pression de connaissances, de pression évidemment de savoir comment faire quoi au niveau du cloud. En plus, on parle de YAC, Donc ça surenchérit l'infrastructure as code. Qu'est-ce que c'est que cette bibite? Qu'est-ce que c'est ces trucs? Donc, et puis là arrive évidemment le cloud native. Puis là, le cloud native, et puis là, on va pas rentrer plus loin de ça, mais là, on rentre dans les layers supplémentaires avec les Kubernetes, les Docker de ce monde, les, tout le monde autour du cloud native qui en est, et des services qui y vont. Donc là, la pâquerette, elle est énorme, parce que si je mettrais les logos en soi, c'est presque plus de 6000 entreprises qui tournent autour, enfin, de sujets qui tournent autour de tout ça. Donc, honnêtement, je pense que le mistake configuration n'est pas exclu, et c'est presque ça, les S3 qui se sont fait avoir, les storage, c'est une catastrophe sans nom à date.
Mais ça a toujours été un problème. En InfoNogic, ça a toujours été un problème parce que on parle des buckets S3 notamment, là, avant que Amazon soit tanné de se faire pointer du doigt, puis mettre en place des choses pour justement empêcher que les gens ne se tirent pas dans le pied. C'était énormément un problème, ce genre de choses-là. C'est juste des erreurs de configuration où, à la limite, on pourrait dire que c'est de la négligence dans certains éléments. J'ai aimé le fait que tu amènes le point, puis je ne savais pas que c'était 81% des gens en cyber qui ont des problèmes. Cela étant dit, il n'y a pas de hasard que j'ai rajouté des segments plus humains dans le podcast justement pour adresser ce secteur-là parce que, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, on est un secteur qui est plus sensible à ce genre de problème de santé mentale, de burn-out, d'éléments de dépression, et ainsi de suite, on est plus propice. Et on a aussi l'autre volet qu'on est plus une concentration plus importante de neurodivergents, de gens avec des profils qui sont hors normes, donc qui ont plus de misère à s'intégrer et donc de vivre dans un contexte social qui les supporte. Donc, on est déjà dans ça. Fait que le 81%, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Fait que mon intuition était quand même pas mauvaise, mais je trouve ça très impressionnant. Mais la distraction de configuration, l'absence de support de l'organisation, le fait qu'on balance des juniors dans des tâches que ça serait que des seniors qui devraient toucher, où on ne permet pas à des juniors de se faire encadrer par des seniors, notamment, ou puis ça, j'imagine que tu as sûrement vu aussi, où on est dans un univers, on est tellement orgueilleux que même les juniors n'acceptent pas les conseils de seniors. Donc, comme dans les professions comme les avocats, les comptables, les médecins, où la croissance professionnelle, elle est encadrée et cette croissance-là est naturellement faite de façon que tu te fais suivre par un senior tout le long de ta croissance et tu acceptes de te faire critiquer, entre guillemets, tout le long de ton choix et justement pour t'aider à progresser et devenir un meilleur professionnel dans ce domaine-là. C'est à ce stade-ci, si je n'accepterais jamais de me faire soigner par un médecin qui n'est pas passé par un chemin où il a été évalué par ses pairs, qu'il a été accompagné par ses pairs pour le rendre un meilleur médecin. Et comment ça se fait qu'en cyber, on accepte et même qu'on accepte cette espèce de refus puis que les gens refusent de se faire critiquer leur travail dans un contexte positif, naturellement, pour améliorer leur qualité. Puis c'est quand même nous qui contrôlons les ficelles de la sécurité de l'ensemble des systèmes dans lesquels on est sur comment la société fonctionne. C'est complètement fou, là.
Ben, en fait, la seule chose qui... on va dire entre guillemets, qui choque à ça, c'est d'une part, je pense qu'en même temps, c'est un conflit générationnel et un conflit d'éducation. Parce que la nouvelle génération toujours repart avec une nouvelle... on était, la nouvelle génération de nos parents et ainsi de suite, et avec une façon de faire qui n'était peut-être pas Internet. Moi, Internet, je l'ai connu à mes 20 ans, mais en mode kiosque micro, mais pas dans l'Internet que mon fils l'a connu, hein. Comme une fois, il m'avait dit, mais papa, on recherche plus sur Google, on recherche sur YouTube. Et puis maintenant, lui-même dit, on ne recherche plus sur YouTube, mais on va rechercher sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur machin, sur ainsi de suite. Enfin, tu sais, même lui évolue, même, et pourtant, il s'est passé quoi, 23 ans, on ouvert tout ça. Donc, ça sous-entend que tout ça va à une vitesse d'évolution, où c'est encore une fois une évolution sur la majorité. Ça c'est pas quelque chose, c'est une vérité de la valise que je dis, mais c'est aussi un point où, de notre côté, quand on est en entreprise, on a une telle pression de vouloir aussi faire de la performance. Alors, quand on est en plein emploi, comme c'est le cas, c'est peut-être pas le cas que ça va durer, mais en tout cas, comme c'était le cas, c'est sûr que c'est intéressant et le gars, il a pas trop peur, évidemment, de perdre son emploi. Mais le gars qui a 45 ans, 50 ans et Dieu sait que ça nous touche à nous deux, voire même un peu plus, puis qui derrière joue dans le cloud, mais sans vraiment trop jouer, puis que voit un ou deux gamins qui est souvent, la plupart du temps, la moitié de son salaire, ou au moins facilement 40% de moins, s'aperçoivent que les gars en font des fois 10 fois plus, évidemment, bah c'est ça qui génère évidemment la problématique, et c'est là où la friction ne devrait pas le faire. Et c'est là où les entreprises, et c'est moi là, je me cogne aujourd'hui, même à mon job actuel là-dessus, c'est de dire, si vous avez des seniors, ces fameux 40% que vous leur donnez en plus, d'ailleurs, il faudrait peut-être même les payer, même encore un peu plus, parce qu'ils devraient quoi ? C'est que 30, au moins 20 à 30% de leur temps devraient être officiellement pris pour former justement cette nouvelle cohorte, parce que eux vont encore avoir peut-être 10-15 ans avant la retraite, et que justement, c'est votre nouvelle cohorte pour donner cette notion de dire bah, « il y a de l'apprentissage », de dire aux gars, il y a souvent des réfractaires à vouloir à se faire valoir son job ou à faire les trucs, mais globalement, honnêtement, quand vous avez du trust des jeunes… J'ai cette chance, moi, de faire partie d'une ligue de CTF, tu le sais, au travers du Hackfest et compagnie. Par défaut, quand ils trustent, et ils te suivent, et ils t'écoutent, et ils font. Je veux bien dire qu'il n'y a pas non plus un mouton noir dans l'affaire à chaque fois. Là, tu t'en sépares au pire. Hein. Tu y fais une fois, deux fois, puis au bout de trois fois, c'est toujours. Mais je veux dire, par défaut, c'est facile de voir qui veut, évidemment, apprendre. Et c'est ça qui génère, justement, ces problématiques, je pense, de vouloir pas tirailler, mais de vouloir évidemment gérer, parce que ça ne peut pas être l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre, et ça c'est parce que même pour l'ancien, c'est important d'avoir la nouvelle génération pour avoir la nouvelle structure de pensée.
Oui, mais c'est un échange, puis ça, on l'a perdu, puis de toute façon, dans notre domaine, on n'est pas super bon là-dedans, de toute façon, là, puis tu sais, je regarde mes
ça, c'est sûr.
25 dernières années, puis c'est difficile, l'échange, le mentorat est très difficile parce qu'on est dans un contexte où il y a des gens qui gardent le savoir pour eux autres parce que ça leur donne du pouvoir. Et de l'autre côté, ceux qui devraient recevoir sont trop orgueilleux pour accepter le fait qu'ils sont pas parfaits. Même si tu as 22 ans et tu peux pas être parfait, là, c'est normal, ça fait partie du chemin. Et puis les entreprises ne mettent pas en place à bien des égards de la structure pour aider ça. Je sais que le gouvernement du Québec commence à embaucher des gens sans expérience en cyber et accepte des formés au passage. Fait que je trouve que c'est une amélioration très importante d'accepter de faire ce passage-là. Et un peu comme toi c'est notamment à travers le Hackfest que tu le fais, je le fais à travers le Secure aussi, mais je fais du mentorat aussi à travers des institutions d'enseignement où j'accompagne des étudiants et je leur explique. Et puis là, on est le 22 décembre. Cette semaine, j'avais une rencontre avec 42 notamment. On a fait un peu fire camp, c'est-à-dire que les étudiants autour, on a juste fait une discussion ouverte sur le marché de la cyber, la technique, comment ça fonctionne, comment c'est tout l'univers de ce que c'est, justement pour les ramener à la bonne place, les ramener dans une perception qui sont importants dans cet univers-là. Et je suis pas là pour le faire comme j'en sers au blanc puis leur pousser mon contenu, mais vraiment une discussion ouverte de type mentorat où on est justement, il y a eu cette opportunité-là de pouvoir, avec ces étudiants-là, de leur communiquer ma passion et de voir, de défaire les mythes qui sont largement véhiculés et qui sont véhiculés par notre génération principalement, là, que la nature du marché, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Dans la réalité, c'est non. Allez-y ouvertement avec bienveillance, savoir-être. Savoir-être, ça, c'est tough, ça. Même si c'est évident, puis dans notre génération, savoir-être, c'est pas tant existant que ça. Il y en a beaucoup, puis là, je te vois, je suis là, il y en a beaucoup qui ont de la misère avec le savoir-être. Puis on a des noms en tête, puis on les nommera pas, mais ils doivent savoir qui ils sont. Mais ces personnes-là créent justement cette barrière-là à l'entrée chez les gens qui veulent rentrer parce qu'ils ont peur de ces individus-là qui ont un savoir-être déficient.
Bah, disons que la notion, et puis c'est dans tout domaine, hein, pas que dans le cyber, mais la cyber, je sais pas pourquoi, du fait aussi à cause de tous ces trous de sécurité qui ont généré aussi tous ces trous problématiques, vu que l'informatique est partout, gère tout et gère aussi maintenant nos comptes, nos banques, nos accès, nos commandes de pizza, et ça va jusqu'à l'électricité, les machins, enfin bref, on est même moi encore quand même connecté avec les Américains, mais c'est de la même manière. Donc évidemment, ça génère évidemment le côté un peu diva de la chose, mais Non, si tu veux être une diva, bah, sois 007 ou va te battre, c'est toujours pareil. Je leur dis souvent, prends-toi jusqu'à Mike Tyson, si tu le fous par terre, on pourra éventuellement aller jusqu'au truc, mais c'est toujours, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus facile, il y a toujours plus machin. Et les mecs plus forts, la plupart du temps, et dans notre domaine, et Dieu sait que j'en connais encore juste 2-3 des Black Hat, c'est ceux qui sont depuis 25 ans Black Hat et qui a aujourd'hui, t'inquiète, ils ont pas besoin de savoir qu'on... Même si je veux même pas sous-entendre ce qu'on fait au niveau du podcast, au Hackfest et ailleurs, mais même nous, ce qu'on fait, c'est encore du bisounours par rapport à ce que font évidemment d'autres affaires. Donc, tu sais, restons humbles, là où on est, on fait ce qu'il faut. Je pense qu'en plus, on est bien payé pour faire ce qu'on fait. On est super bien aussi nantis à ce niveau-là. Donc, soyons, comme je dis, SSH, hein, simplicité, sagesse et humilité. Connaissez mon point, c'est pas si Kurchel, donc ça reste toujours mon leitmotiv à date au niveau du CTF. Donc voilà, simplicité, sagesse, humilité, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Donc on va passer évidemment à la quatrième. On va pas en passer, vous inquiétez pas, on en a 10, mais on en a 3-4 qui vont passer rapidement parce que bon, c'est du classico là, mais la quatrième est quand même assez les quatre premières en fait. On va peut-être passer rapidement la 5, 6, 7, mais les quatre premières étaient quand même assez incroyables parce que social engineering, l'exposure des tiers parties, le mistake des configurations à cause évidemment des de la santé mentale, de ce qu'on a vécu, de ce que vous comprenez à date et des nouveaux spectres qui arrivent évidemment avec l'IA et avec les nouvelles techniques qu'il y a. Et puis là, le quatrième, c'est les ports cyberhygiène. Alors ça, de dire qu'on a de l'hygiène pauvre en cyber, en fin 23, effectivement, ça c'est impensable. D'ailleurs, c'est à peu près, d'ailleurs, en l'occurrence, il faut savoir qu'à date, alors, selon ce que j'ai en chiffres, là, on me dit pas si c'est dédié au niveau worldwide ou si c'est dédié au niveau du Nord-Amérique. Mais à date, d'après ce que je vois au niveau de mes chiffres, puis là, je lis pour pas faire d'erreur, mais ce serait 60% des organisations qui font confiance. Alors, ça peut se faire à titre perso, ça dépend comment on le fait, mais qui font confiance à la mémoire humaine pour mémoriser les mots de passe. Donc 60% des organisations et 42% de ces organisations managent leur password en utilisant des sticky notes, ça veut dire les fameux post-it. Donc évidemment 54%, Morzan quand même, enfin, n'ont pas, attention, c'est pas on, n'ont pas ou ne requièrent pas l'utilisation du two-factor. Ça, là, c'est là qu'il y a aujourd'hui, lorsqu'on sait, et ce serait que 37% des individus qui auraient des two-factors sur des personnes à la compte. Donc 37% sur 500 millions de personnes au travers de la planète, si c'est la planète, même sur, allez, admettons 100 millions sur le côté Nord-Amérique, ou 50 millions, on va dire, et qui n'ont que 37% qui ont du two-factor, vous imaginez que ça laisse évidemment l'ouverture à toutes les
c'est
possibilités.
Atroce.
C'est atroce. Le ça two-factor à 50%, ça n'a aucun sens. Parce que ça veut dire que c'est encore une fois une hygiène qui n'est pas acceptée. Puis ça, on parle évidemment de la petite boîte boulanger de deux personnes à la PME qui peut aller jusqu'à 500 et au-delà.
J'ai vu des grandes organisations qui ont lutté fort contre le MFA.
Voilà, qui ont lutté fort sur le système.
Mais arrêtez, là, c'est le minimum viable à l'heure actuelle, c'est le MFA notamment, mais l'hygiène numérique, c'est beaucoup plus grand que ça dans l'absolu. Et le MFA en fait partie, la gestion des mots de passe en fait partie, les configurations, la segmentation, comment on fait les choses.
J'ai ma réponse, je suis désolé, j'ai ma réponse, c'était bien mondial que je vous ai dit, puisqu'après on dit que c'est moins de 45% que les Américains disent qu'ils changent de password après breach. Donc on en a 55% qui changent même pas leur password après un breach de sécurité. Et 34% disent qu'ils changent leur password régulièrement. Bon, on a quand même un petit peu de chance du 34%.
Mais
bref, enfin, ceci pour dire que l'hygiène aujourd'hui est un... L'hygiène passe par, pas que le mot de passe, passe par aussi vos hygiènes de est-ce que j'ai des comptes, comme on dit, et je l'utilise pas. Quand vous avez des accès à des SaaS que vous faites, la notion de la sécurité dégradée, j'ai des super mots de passe de 16 caractères, on en a déjà parlé longtes fois dans des podcasts, c'est-à-dire, vous en prenez des 8 que vous connaissiez par cœur, vous les ajoutez, vous mettez des espaces, des étoiles, des points d'interrogation, des points d'exclamation entre les deux, et vous voilà, avec 17 caractères. Il faudrait donc 600 ans pour les choquer, même en brute force. Donc là, à date, il n'y a pas de choix possible. C'est réduire son exposure. Quand on dit l'ASR, c'est la fameuse attaque de surface, donc réduction de l'attaque de surface. C'est réduction pour soi-même au travers aussi des outils qu'on utilise. Et plus vous avez de compte ou plus vous connaissez votre spider de compte, évidemment, bah ça aussi, ça vous prépare votre Internet 4.0 à vous, ou en tout cas d'ailleurs, ça sera peut-être sûrement parce que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, ce sera sûrement un ou deux podcasts qu'on avait déjà fait avec Nicolas, avec Emeline, je crois, on en avait fait un, c'était sur la fameuse transfert de son patrimoine 3.0, donc le patrimoine numérique. On va être encore pire dans les années à venir pour le patrimoine numérique. Qui a quoi, comment, est-ce que demain j'ai un accident, je perds mon portable, mon laptop, mon laptop est cassé pendant l'accident, ou j'enlève, comment je fais pour récupérer les comptes de mon mari, de ma femme, est-ce que ils ont les passwords là où il faut, est-ce que j'ai les clés adéquates, enfin, et j'en passe. Tout ça fait partie d'une hygiène importante, et je pense qu'à aujourd'hui, grâce à l'augmentation du travail à distance, à cause de la pandémie, du fait que désormais on est quand même passé en mode hybride, voire quand même en mode à distance sur beaucoup de choses au travail. Beaucoup de gens bossent sur des cafés publics, beaucoup de gens bossent sur des trucs avec des Wi-Fi à moitié, on ne sait pas trop s'ils savent pas comment ça se passe. Beaucoup d'entreprises, évidemment, maintenant, bossent aussi avec du BIOD, donc ça veut dire avec du Green on Your Device. Donc vous prenez votre propre machine, souvent c'est que les applications qui sont gérées par l'entreprise, mais pas spécialement la bécane. Donc est-ce que l'hygiène est faite au travers de la machine? Est-ce que les enfants y touchent? Est-ce que c'est un autre? Vous la prêtez? Vous la prêtez pas? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une séparation, évidemment, entre vos bureaux et ainsi de suite? Enfin bref. Nous, ce que l'on pense, et moi, ce que je pense, c'est que là, l'hygiène, autant au niveau entreprise qu'au niveau personnel, doit être évidemment importante. Et ça, là, de l'entendre comme étant une menace supplémentaire en 2023 du fait que c'est de la fainéantise, en fait, qui est mis en avant, je trouve ça un peu déplorable. Ou en tout cas, au travers des entreprises qui ne font pas les efforts, c'est quand même assez compliqué.
Au niveau personnel, je peux comprendre jusqu'à un certain point. Au niveau entreprise, j'ai eu beaucoup de difficultés à pardonner ce genre de, au moins au niveau de l'hygiène de base, de faire ce genre de choses-là. Puis tu sais, si on prend l'analogie, c'est comme si des gens qui ne se lavent pas, qui ne lavent pas leur linge, qui ne font pas leur ménage dans leur maison, qui ne font pas l'essentiel dans leur vie. Puis là, on accepte que ces entreprises-là existent. Et dans certaines occurrences, on accepte que ces entreprises-là traitent nos informations personnelles qui auront potentiellement des effets sur nous parce qu'ils vont, échapper nos informations personnelles. Oups, on va se retrouver dans le dark web. Oups, on va se retrouver ce genre d'éléments-là. Je trouve que socialement, on est excessivement négligent. Je trouve ça malheureux qu'on doive passer par le législateur pour réussir à nous fouetter un peu. Notamment, la loi 25 au Québec qui est comme un coup de fouet. Il va y avoir soit C-27 au fédéral qui s'en vient, qui va un autre type de coup de fouet qui va nous devoir nous mettre dans des contextes d'obligation. Puis ça, en même temps, j'entends des PME qui se plaignent que loi 25, c'est contraignant. Non, tu traites mes informations. Si tu manipules mes informations, je me fous que ce soit contraignant pour toi. Charge-moi plus cher parce que ça te coûte plus cher à processer, puis ça ne dérange pas. Mais laisse pas traîner mes enregistrements, mes informations personnelles sur le bord de la rue parce que tu n'as pas les moyens de te payer un coffre-fort pour mettre mes informations. Tu sais, là, s'il vous plaît.
Si on fait une analogie entre l'argent, le portefeuille ou même un lingot d'or, ils vont le mettre. Même quand quelqu'un prête de l'argent, tu vas vite le mettre en sécurité quelque part. Ça revient au même au niveau des data. Et les data, on le verra d'ailleurs dans les menaces, hein, puisque ça arrive bientôt. Mais les data, c'est l'or. Il n'y a pas que l'or bleu, hein, qui est l'eau. C'est l'or 3.0, c'est les données. Hein. C'est grâce aux données qu'on fait des stats. C'est grâce aux données qu'on fait. C'est grâce aux données qu'AWS vous vend le bon truc au bon moment. C'est grâce aux données que si vous n'aimez pas les tondeuses, vous regardez les tondeuses dans Facebook et dans moins de 2 heures, vous aurez des mails à tondeuses avec des coûts super. C'est tout ça qui fait que ça veut dire, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez entendu parler de Cambridge Analytica et avec évidemment toute cette éventuellement scandale autour évidemment de Facebook et autres. D'ailleurs, ça a coûté plus ou moins ce qu'est Facebook à aujourd'hui et pourquoi il est basculé sur Meta et pourquoi il avait heureusement réacheté Instagram entre deux et que. Mais c'est ça, c'est tous les problèmes à titre et Cambridge Analytica n'est que la pointe de l'iceberg sur tout le reste, même si déjà lui, c'est un gros iceberg. Bah, tout ça est social, le social dilemme que fait Tristan Harris et qui explique tout ce que font tous ces gens-là et comment les moteurs fonctionnent, comment les bases graphes fonctionnent. Donc, faites attention évidemment à ça. Pour reprendre ce que vient de dire effectivement Nicolas, j'adore. Vous nettoyez tous les jours les dents, les pieds, les mains, une bonne douche et les fringues, bah, c'est pareil. L'hygiène de son numérique vient de là. Faut nettoyer la plupart du temps de ces points-là. Alors, les deux autres, on va y passer rapidement. On l'a déjà fait parce qu'on a fait déjà pas mal de podcasts là-dessus. C'est le Cloud Vulnerability qui arrive en cinquième position. Bah là, je vous invite à aller lire et aller voir. D'ailleurs, il y a même d'autres. Il aime bien que je lui fasse un petit coup de pub. Bah, je vais lui en faire un. En plus, Clément, pour Nicolas, évidemment, au niveau du podcast, mais Clément aussi, vous verrez qui est Clément Truchet. Il a aussi géré au travers de pas mal de choses au niveau Azure, Cloud et compagnie. On est deux dans le podcast de Polysécur à en parler. Donc, Clément est vraiment un sacré bonhomme et autre, donc je refais un coup de clin d'œil à Clément, il va comme ça apprécier la blague, il me le renvoie à chaque fois. Mais en effet, vous avez pas mal de podcasts depuis 2 ans qui parlent, moi je le fais, donc Cloud Vulnerability, c'est sûr qu'il faut faire attention, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est nouveau, on sait que c'est AWS, on sait que c'est Microsoft, on sait que c'est fait. Encore une fois, faites attention, j'aurai juste un truc sur ce cinquième point, c'est la partie évidemment du Black Box, Grey Box et White Box, ne vous faites pas piéger avec le sensationnalisme. Des présentations et puis aller voir évidemment la plupart du temps pourquoi il y a du derrière, comment c'est, parce que quand il n'y a pas de misconfiguration, péter du cloud, ça commence à devenir très 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 compliqué. Donc ça, c'est un des points importants. Ça, c'était le menace parce que tout le monde est dans le cloud public à aujourd'hui, en tout cas il vient, et ça depuis maintenant les 15 dernières années, c'est évidemment ce qui prime.
Ben, les cas rares comme le MSA cet été ou cet automne qui était un cas, mais c'est un cas plutôt rare qui arrive, qui est vraiment dangereux au niveau infonuagique. Mais si on couvre le point 3, la misconfiguration, s'il est bien couvert, normalement, on ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là, même si le cladeur peut rencontrer certains problèmes. Qu'on est quand même... C'est notre responsabilité d'assurer la configuration de ce qu'on a et justement qu'elle soit stable, robuste et ainsi de suite, donc non seulement la surface d'attaque et tout ça. Fait qu'on revient à cet élément-là de configuration, de stabilité de la configuration et la robustesse de celle-ci. Et pour la quantité d'organisation que je trouve négligente, on parle aussi de l'hygiène, leur configuration infonologique n'est vraiment pas à la hauteur pour affronter l'exposition dans laquelle ils sont. Puis, les attaquants vont faire qu'une bouchée d'eux autres de...
Oui, puis n'oubliez pas une chose, hein, on en a déjà parlé. Comme je dis, je vais passer très très vite. Le cloud, aujourd'hui, vous avez le fameux pizza as a service, hein, ce que j'appelle moi la pizza as a service, c'est-à-dire qui est responsable de quoi entre le SaaS, le IaaS et le PaaS. Et puis après, vous avez le FaaS, le CaaS, les machins, hein, tout ce qui est Lambda, Functionless, CaaS, c'est les conteneurs as a service et compagnie. Tout ça, je vous l'enlève parce que c'est des sous-domaines des autres. Mais si on prend les 3 premiers domaines, avec le 4e qui est le on-premise, où là vous gérez la totale, et là je l'enlève dans le cadre du cloud, n'oubliez pas que jusqu'en haut du plus haut de genre, j'ai plus beaucoup de responsabilités qu'est le SaaS, qui est le software as a service, votre responsabilité est encore la data. Donc tout ce qui est data est votre responsabilité. N'oubliez pas, une data exposée, c'est vous qui êtes responsable. En aucun cas, les 3 plus gros qu'on a actuellement en Nord-Amérique, je ne parle pas d'Alibaba et des autres, là, mais je parle de GCP, Amazon et AWS, c'est vraiment la data et votre organisation de comment vous faites votre cloud. Donc, la moindre misconfiguration, la moindre problème qu'on a parlé d'en amont, qui touche aussi le cloud, de toute façon, vous le frapperez fort. Alors, en 6e position, on a le Mobile Device Vulnerability. Lui, je le passerai vite parce que je crois que là, vous avez qu'à lire toutes les news du moment. Je crois que je ne vais pas vous réinventer tous les trucs. Hein. On sait que de toute façon, on a perdu la guerre des mobiles puisque c'est les Coréens du Sud qui l'ont et les Chinois et compagnie. Utilisez peut-être moins Huawei que le reste, hein, ça c'est sûr. Apple et compagnie, vous avez Siri, vous avez mis vos petits doigts dessus pour évidemment protéger avec vos empreintes. Bon, la NSA a vos empreintes, hein, c'est comme Facebook qui est le plus gros reconnaissance faciale de la planète, on va pas refaire, hein, ça, on le sait. Donc les mobile device vulnerability, pourquoi aussi, je reste juste rapidement, à cause de la pandémie aussi. Au travers de la pandémie, les gens ont énormément demandé de travailler à distance. Qu'est-ce qu'on travaille à distance? Avec évidemment les mobiles. Les mobiles sont gérés évidemment pour la plupart du temps avec évidemment des systèmes aussi de sécurité d'entreprise et autres. Encore une fois, on revient à notre première menace, social engineering. Tu dois te défendre. Donc on te fait croire que c'est un logiciel d'entreprise de je sais pas moi, d'antivirus, d'accès un peu comme Intune, là, MAM ou MDM, et puis vous installez quelque chose, et puis automatiquement, en fait. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner rapidement sur le mobile device, ne mettez pas root votre device, au pire. Laissez-le, évidemment, non root, même si vous diriez, si vous en mettez un root, utilisez-le sans carte SIM, au pire, pour faire vos propres essais. Mais si vous voulez l'utiliser au truc, le fait de pas le mettre root fait que, les méchants ne peuvent pas être root non plus. En tout cas, très difficilement. Et puis, vous mettez aussi, encore une fois, l'hygiène. Souvent, vous savez que maintenant, Google, et je parle plutôt d'Android que d'Apple, il vous permet d'avoir dans votre compte Google les apps que vous avez installées d'avant et d'après. Vous n'êtes pas obligé de le réinstaller au complet. Vous pouvez garder cette genre rousse catalogue à vous. Ce qui vous permet aussi que quand vous repartez avec des téléphones neufs, installez juste ceux que vous êtes sûr d'utiliser. Encore une fois, n'installez pas non plus, même si vous dites « Ah ouais, mais celui-là, je l'ai bien aimé, machin. Ouais, mais je vais peut-être pas le faire maintenant. Bon, je vais le garder dans mon catalogue, je viendrai l'installer. » Mais vous pourriez très bien le désinstaller de votre téléphone, et c'est pas pour autant qu'il est désinstallé du catalogue. Google fait une différence entre les deux. Donc, vous pourriez très bien retourner dans votre compte, aller dans votre compte Google, là, lui dire que vous ne le voulez plus dans votre catalogue. Là, par contre, il va disparaître. Il disparaîtra pas du Google Play, mais il va évidemment disparaître dans votre truc. Donc, soyez aussi malin là-dessus. Puis encore une fois, utilisez le SSO de Google, parce qu'obligatoirement, il vous fera avec le two-factor. Donc, dès qu'un logiciel vous demande évidemment une connexion, s'il y a une connexion Google, utilisez-la, surtout sur votre mobile, et non pas utiliser un mot de passe ou quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, si vous cliquez quelque part, avec les vulnérabilités mobiles, c'est tellement une catastrophe telle qu'ils sont faits, les logiciels, surtout sur Android, encore plus que sous iOS. Même si iOS est pas distant, mais il y a quand même un ratio de au moins de 30% de plus sur Android. Je vous dirais de faire évidemment très attention.
Ouais, attention. Puis je vais préciser parce que c'est assez récent comme nouvelle au moment où on enregistre. Le mode lockdown sur iOS. Il a été perçu par bien des gens comme étant l'espèce de panacée de sécurité. Non, le mode lockdown ne fait que résoudre la surface d'attaque. Si le OS a déjà été attaqué et compromis, ça ne règle pas a posteriori, ça règle juste a priori, c'est-à-dire que ça va résoudre la capacité d'un attaquant de réussir à mener une attaque. Mais une fois qu'il a pris pied, ça ne l'empêchera pas de maintenir son accès si vous basculez à ce moment-là. Donc, c'est toujours si vous voulez utiliser ce mode-là pour vous protéger, le faire en amont. Donc, vous allez dans un événement. Ce que je fais généralement, c'est genre, je m'en vais au DEFCON. Avant d'aller au DEFCON, je bascule en lockdown pour réduire ma surface d'attaque pendant que je suis à ce moment-là et pas après en espérant que ça enlève le code qui aurait été malheureusement mis sur mon téléphone parce que j'ai été négligent. Faut le réfléchir de cette façon-là. Puis bon, les médias ont dit un paquet de conneries, mais la réalité, c'est comme toujours, tu sais, ça part en ballon, mais la réalité, c'est une bonne mode de protection a priori. Utilisez-le comme tel. N'espérez pas que ça va régler un problème une fois qu'il est arrivé. C'est pas ça la fonction, c'est autre chose, c'est tout.
Effectivement, c'est de toute façon, il n'y a pas de secret. On parlait d'ASR tout à l'heure pour tout le reste. En fait, dans toutes les menaces qu'on va vous citer sur les 10, là, je vous ai un peu rebridgé là-dessus, rechecké là-dessus, c'est vraiment toujours de plus vous allez réduire ou plus vous contrôlez votre environnement, mieux. Parce que déjà, en contrôlant, des fois, c'est pas si évident que ça, mieux vous allez le faire. Donc, encore une fois, les soi-disant house protocol à la mode Tony Stark, les lockouts, les je sais pas quoi, les trucs, oui, mais c'est pas ça qui va faire. Ce qui va faire la différence, c'est quand vous allez dire, je vais mettre mon hotspot parce que je trust un peu plus mon provider que je trust évidemment le Wi-Fi de n'importe quoi à côté entre l'hôtel, l'aéroport et compagnie. Connectez-vous sur votre téléphone. payez-vous éventuellement, si vous le pouvez, évidemment, un accès d'un abonnement avec un peu plus de... Quoique, si c'est pour faire des mails, un peu de Teams et un peu de machin, je vais vous dire, ça ne bouffe pas non plus des masses, quoi qu'on en dise. Les accès au travers des différents systèmes de serveurs sont quand même assez propres. Donc, si vous décidiez de jouer un truc énorme, évidemment, au travers du PC, mais là, sinon, ou transférer des gros fichiers, mais normalement, ça ne marche pas non plus énormément. Parce que même de regarder un film de Netflix avec un hotspot sur un appareil mobile, ça prend quoi, 1 giga pour un film complet et encore à peine, enfin, 1 méga, pardon. C'est vraiment pas énorme par défaut à faire. Donc, branchez-vous sur votre téléphone que vous branchez sur n'importe quel réseau, même si c'est un réseau public fermé avec une clé. Le grand haut peut faire n'importe quoi. Et, alors, si en plus il est ouvert, je vous cache pas. Le septième point rapidement, c'est l'IoT. Alors là, l'IoT, c'est la crème de la crème, l'IoT en ce moment. Ça, c'est le délire sans nom. Parce qu'évidemment, alors encore, j'ai des chiffres devant moi pour vous donner un point, parce que la pandémie a conduit évidemment la population active. Donc là, j'ai des chiffres sur la population américaine. Comme évidemment tout le monde est resté en pandémie, a sûrement fait son petit chez soi top. Puis ben voilà, la domotique, hein, c'était la domotique à notre époque, à mon époque. Maintenant, la domotique a évolué, c'est l'IoT intelligence et les connexions. Mais l'IoT est devenu de plus en plus intelligent parce que lui aussi a de plus en plus de connexions, voire même, et c'est ça qui est le pire, des connexions Bluetooth qui sont moins protégées pour avoir un accès Wi-Fi, les fameux WPS qu'on appelait à l'époque au travers des imprimantes. Ils ont des connexions la plupart du temps aussi pour certaines avec carrément des cartes cellulaires, donc ce qui est encore évidemment pire, mais celles-là on le rend totalement autonome. Donc là, les chiffres que j'ai, c'est que pour la partie américaine, 70% des ménages, donc c'est un quart de la population américaine, posséderait au moins un appareil intelligent. Ça soit un Roomba, une balance, n'importe quoi. Et sans surprise, les attaques sur les appareils intelligents auraient augmenté, évidemment, avec plus de 1,5, écoutez-moi bien, 1,5 milliard de violations entre janvier 2021 et janvier 2023. Donc, combiné aux habitudes d'hygiène de cybersécurité, là, comme on dit, les appareils moyens attaqués dans les 5 minutes qui suivent leur connexion à Internet, soi-disant que les experts estiment qu'une maison intelligente dotée d'un large éventail d'appareils IoT, genre thermostat, la caméra, la truc d'ouverture et autres, peut faire hein, à peu près l'objet de 12 000 tentatives de piratage en une semaine. Donc c'est ça qui est complètement fou.
C'est pas bizarre à le croire,
c'est complètement débile.
C'est énorme.
Et là, ils estiment que le nombre de connexions IoT cellulaires devrait atteindre 3,5 milliards en 2023 et devrait doubler, si ce n'est tripler, en 2025. C'est tellement pharaonique qu'ils estiment, là c'est sur un autre article que j'ai, que l'IoT sera l'exponentiel x3 de ce qu'a été le cellulaire à son apogée. C'est-à-dire qu'on aura 10 fois plus d'IoT, ou des fois on ne sait même pas quel IoT. Et là, la plus difficile, parce que ça me touche, du fait d'ailleurs présentation que je ferai au Sécur 2024, c'est la protection avec évidemment la violence, où est l'occurrence la protection au niveau des enfants. Et là, bah, il faut savoir que deux choses. La première chose, on parlait d'IoT, bah, l'IoT au niveau des poupées connectées, des jouets connectés, des Kinder connectés, des téléphones connectés, des machins, c'est une catastrophe, ça touche les enfants. Et ils peuvent avoir des tonnes et des tonnes de déviance à ce niveau-là. Et puis, on parlait tout à l'heure des breaches et des tiers exposeurs. Bah là, je vous en tiens une bonne. Le populaire contrôle parental Kids Security, qui monitorait en l'occurrence les children's online safety avec tout ce qu'on peut faire, s'est fait breacher de 300 millions de records de petits. Donc là, il s'est fait breacher, ils ont identifié, c'est en septembre dernier, hein, 300 millions de data compromis sur 21 000 téléphones et dont 31 000 d'adresses avec en plus des paiements, des cartes de paiement.
Voilà. C'est juste complètement fou, mais T'sais, d'un côté, comme adulte, c'est rendu normal que nos données soient breachées. Le problème, c'est que nos enfants commencent à être de plus en plus inclus dans cet élément-là. Les miens sont plus tellement jeunes, fait que c'est plus rendu leur problème. Mais pour ceux qui ont des très jeunes enfants qui ont malheureusement été un peu déboussolés par la quantité de jouets et de choses numériques dans lesquelles ils mettent dans les mains de leurs enfants, ou leur mettre des cellulaires trop jeunes, ou leur mettre des appareils électroniques dans lesquels
totalement. Ils suivent. Totalement. Donc là, évidemment, c'est complètement fou parce que ça touche évidemment là les petits, ça touche évidemment les plus vulnérables aussi, comme évidemment la notion de gestion des anciens en l'occurrence. Donc là, honnêtement, il faut faire très 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 attention parce que évidemment ça génère des troubles vraiment très importants d'être sûr et certain que la poupée de la petite fille va pas en train de lui dire autre chose ou va pas l'inviter à je ne sais où. Bref, faites attention. Ouais. Donc ça, c'est... Ouais. Notre huitième, on bascule sur évidemment notre gros sujet que moi j'avais fait déjà depuis presque maintenant. Enfin ça, vous savez que c'est mon dada au-delà du cloud, c'est le ransomware, tout ce qui est virus. Et c'est le ransomware. Bon, là, on touche plus quand même un petit peu les particuliers, effectivement, mais c'est énormément les entreprises puisque c'est surtout eux qu'on pognon, hein, le ransomware. D'où vient son nom, puisque c'est le but du jeu. Donc là, au travers des attaques, ça s'active. C'est toujours autant impensable. D'ailleurs, depuis entre 2018 et 2020, la partie des ransoms va de 5 000 $ à 200 000 $. Il faut savoir que l'average length du système downtime après un ransomware est à peu près de 21 jours. Donc, ça veut dire que le temps, évidemment, du downtime pour que les gens puissent évidemment payer, c'est à peu près 21 jours. Et ils disent, en l'occurrence, que là, le dernier sondage qui a été fait en 2022, sorti en 2023, 1263 cybersécurité professionnels ont dit que 66 d'entre eux ont présenté ou en tout cas ont précisé que leur compagnie avait vraiment souffert d'une baisse de revenus, autant résultant du ransomware que de l'image au travers du ransomware. Et c'est pour ça qu'il y a souvent, malheureusement, et ça c'est ça mon petit coup de gueule du jour, j'en ai toujours des fois un que je fais, c'est celui-là, de croire d'ailleurs l'Union européenne a décidé, pour une fois on dit souvent que c'est les Américains qui inventent, les Chinois qui copient et l'Union européenne qui régule. Mais là, ils ont décidé de se réunir ensemble. C'est plus de 50 pays pour empêcher, passer une loi dans ces 50 pays-là pour que toutes les entreprises ne puissent pas payer les rançons. Et ça sera puni par la loi en même temps pour le faire. Parce que ça va être législatif. Et du fait que ça passe législatif, bah, les entreprises ne pourront pas et avoir l'obligation de parler de la loi 25. Mais il y a la loi c'est la loi 25, je crois, même, la loi 15, je sais plus si c'est la loi. Il y a la 5, la 15 et la 25 qui arrivent, mais il y en a une des deux qui obligera aussi les entreprises à préciser s'ils ont été attaqués d'une ransomware et quel a été éventuellement leur rendu, quel est le dommage évidemment créé pour le public et quel est le dommage évidemment rendu pour le service et qui devront donner un repos, un peu comme a fait la RTC d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été cyberattaquée, qui avait vraiment fait un truc d'enfer, d'après ce que j'ai compris et que j'avais lu d'ailleurs et que je salue de transparence à ce niveau-là. Il faut que les entreprises comprennent que la transparence est le plus important dans ce domaine pour faire apprendre aux autres et pour dire aussi que ça n'a pas arrivé aux copains d'à côté et des fois on pense qu'on est soit meilleur ou soit on n'a pas eu de chance puis que l'autre bah oui mais lui il a plein d'argent donc il peut faire les trucs. N'oubliez pas sur un dernier point, c'est que ça persiste évidemment selon l'OFAC puisque c'est l'OFAC hein, qui bloque, c'est le groupe hein, c'est lui qui a l'avis de mort hein, ou de choix aux États-Unis de bloquer toutes les entreprises et les problèmes de paiement. Puis quand vous êtes à l'OFAC, bah, vous êtes mort au travers de la planète parce que la plupart du temps, on ne veut pas se fâcher avec les États-Unis. Quand l'OFAC bloque avec sa liste, c'est pas vraiment top hein, au niveau des cybercriminels. Et là, évidemment, c'est la fameuse ransomware as a service que j'en parlais en 2016 et 2017 sur mes fameux trois grosses présentations en trois événements. Là. Je reprenais le Command and Conquer, comme le Node, les Bleus et puis les Scrins qui étaient la nouvelle génération. Donc ça légitime le fait qu'à aujourd'hui, les infections se font dans des systèmes en moins de 45 minutes, en une heure, ils vous fabriquent des VDS, des VPC, que ce soit chez AWS, en Azure, ça tourne en DNS, ça fait des trucs complètement magiques. J'ai eu la chance d'en voir un en vrai et de l'avoir en main, un package qui permettrait éventuellement de voir comment on pourrait industrialiser un ransomware pour le faire. C'est complètement malade. Alors, ça repasse encore une fois par toutes les menaces qu'on vient de vous dire en haut. Parce qu'il y a encore pas de, encore une fois, il n'y a pas de secret pour repasser. C'est pas parce que vous avez acheté un truc ransomware que vous pourriez croire que vous pourriez être le méchant du coin. Il faut quand même aller targeter. Il y a tout un job. Puis, il faut faire attention, parce que maintenant, même les bons, ont des outils. Donc, faites gaffe, On vous voit. Je vous passerai pas chez moi sans que je vous voie à ce niveau-là. Donc, ça, c'est certain. Donc, là, le but du jeu, il est évidemment de faire attention à ça. Donc, encore une fois, faites attention à vos exposures, faites attention à vos configurations, faites attention à votre hygiène, faites attention à vos clouds, faites attention à vos mobiles, et tout ça n'arrivera pas à faire évidemment du ransomware, parce que encore une fois, vous avez compris la démarche de mes menaces du fait qu'on arrive au 8e, fait que si les du 1 au 7 c'est fait, le 8e compliqué à faire. Backup, évidemment, puis s'il vous plaît, pas du backup. Backup multi data center éventuellement, mais backup data, pour backup spécialement, si vous avez des assets, normalement vous êtes peut-être yaké. Si vous n'êtes pas yaké, demandez à vos gars de le faire, parce que sinon on refait encore de l'informatique des années 2000 dans du cloud. Donc si vous êtes dans le cloud, yakez-vous, faites du infrastructure as code. Donc par défaut, c'est effectivement d'essayer d'automatiser, de protéger évidemment toutes ces affaires et de faire attention aux endpoints, puisqu'encore une fois, c'est toujours le DOPAT et les endpoints qui sont en cause. Après ça, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée aussi sur le chiffre, au niveau des statistiques, j'ai 5 clés pour les ransomware, je finirai avec ça. Les ransomware ont coûté, au niveau du monde, à 20 milliards de dollars en 2021. Ils estiment en fait qu'on est passé à 25 milliards en 2023, et ça coûterait ou ça irait. Alors là, je suis complètement tombé des nues, moi. Peut-être que vous allez... peut-être l'être aussi, mais ça pourrait aller jusqu'à 265 milliards de dollars en 2031. 265 milliards de dollars. Donc, si vous voulez pas faire passer partie de ces choses-là, ce serait évidemment une bonne chose. En 2021, 37% de tous les business et de toutes les organisations ont été, donc le style, les catégories ont été touchées par un des ransomware. Le recouvrement, qui est souvent oublié d'ailleurs, je vous invite, mais le Secure a une super training sur les retours de recouvrement, je fais un petit peu de pub Nicolas en même temps, mais le recouvrement, c'est ce qui coûte 1,8 million average en 2022, pas en 2023, mais en 2022. 1,8 million, je sais pas si tout le monde a 1,8 million d'average pour le faire, mais bon, moi, je trouve ça quand même très cher. Toutes les victimes, au travers du pourcentage de paiement, 32% paient la rançon, et ils sont seulement 65% de ces 32% qui retrouvent leur data. Donc, c'est pas parce que vous êtes à 32% à payer qui représente les 100%, vous êtes que 65% à récupérer votre data. Donc, soyez sûr qu'il y a quand même 35% qui se barrent un peu en tétine et qui ont payé pour rien. Et 57% du business a été, sur tout ce que je viens de vous dire, c'est 57% du business qui a été un succès de recouvrement en utilisant les backups, parce que quand on a du backup et qu'on a la testé et qu'on recouvre et qu'on a le process adéquat derrière, avec ça, évidemment, on est capable de faire de la résilience et de pouvoir faire repartir le business comme il se doit. Petite aussi chose que je vous dirais en tant que Red Teamer Cloud, ou en tout cas en tant que point, faites-vous plaisir. Faites un honeypot aux méchants, créez-vous des comptes, des DNS de votre nom de société avec le mot, je sais pas moi, super paye, super finance, gros bande de machins, et qui venez nous attaquer par là, puis comme ça, en faisant ça, vous êtes discret sur le reste, puis ils vont vous attaquer des trucs qui valent rien, et ça va vous permettre éventuellement de faire votre business tranquille derrière. Quand vous avez un peu de maturité, de sécurité, ou avec les bonnes équipes, vous pourriez monter ce genre de choses. Ça, les gens vont perdre du temps sur des trucs qui croient que c'est la foire aux alouettes, mais en même temps, évidemment, ça aussi, c'est un autre moyen de se protéger. On finira par les deux dernières qui sont plus ou moins éventuellement liées d'ailleurs avec le ransomware, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite. C'est le port data management. Alors ça, mon neuvième, je crois que lui, il est encore pire que tous les autres. Et le dixième, c'est le inadéquate post-attaque procédure. On vient d'en parler, pour ça que là, je passe le dixième tout de suite. Le inadéquate post-attaque procédure, s'il vous plaît, je vais revenir au port data management après, mais faites ce qu'il faut pour vérifier vos backups et faites ce qu'il faut pour vérifier vos procédures. Vous avez le droit aussi d'utiliser des simulations, d'obliger votre patron, si vous êtes CISO, à simuler le retour ou à demander à vos équipes, si vous avez des équipes de dev d'un côté ou des équipes de TI de l'autre, d'être sûr et certain que tel et tel asset qui est un asset majeur et que vous avez un backup ASR qui est fait dans Azure, un backup d'une donnée, d'un VHD, d'un disque dur, d'une data, d'un SQL, de peu importe le truc, vous devez, oui, c'est cramé, mais cramé un jour, juste un jour de boulot avec autant d'équipes pour dire que demain, le jour où ça nous arrive, on est incapable de récupérer parce qu'on a oublié un tel, ou que ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas pensé que tel truc, tel réseau, tel service, tel ceci et là, vous devez avoir obligatoirement. Alors, c'est sûr, je parle comme dans un livre, c'est soi-disant facile, non. C'est juste une petite bouchée à la fois et de le faire quotidiennement avec des choses bien précises. C'est sûr que si vous arrivez sur quelque chose ou qui est déjà existant depuis 10 ans et compagnie, on est dans un autre débat. Je le comprends, il y a d'autres choses à faire. Mais si on démarre la chose, si vous démarrez, je parle en start-up ou si vous êtes une entreprise assez jeune, vous pouvez tout de suite reprendre le pas entre votre persistance, le compute et la partie d'opérationnaliser votre network. Et c'est pas le network ou le compute qui compte, c'est la persistance. C'est plutôt comment intellectuellement vous avez fait tourner ce Lego-là pour évidemment éventuellement le faire évoluer, comme on l'a dit un instant, infrastructure as code ou automatiquement déploiement automatique, même pas spécialement même as code, hein, il pourrait être déploiement avec de l'ARM, avec du peu importe, hein, vous avez des tonnes d'outils qui permettent de déployer vos affaires, mais de dire et d'être sûr d'avoir vos affaires, mais que la persistance soit déjà on-premise ou dans d'autres data centers, ou cold comme on dit, hein, en termes froids, sauvé en termes froids quelque part, et d'être sûr effectivement d'avoir éventuellement vos retours, mais de le tester. Pourquoi les pompiers s'entraînent? Pourquoi les Navy Seals s'entraînent à tous les jours à faire des simulations dans le truc? C'est pour que ça se devienne un instant. C'est pas pourquoi nous, on s'entraîne à tous les jours de faire ce qu'on fait, comme dit Nicolas, on est un petit peu choqué de la tête et qu'on a des problèmes à cause des santé mentale. C'est pas pour rien, parce qu'on pense pas comme les autres. On est un peu bizarre par rapport aux autres et parce qu'on fait nos tests au quotidien. Pour faire quoi? Pour que ça devienne un automatisme. Donc on s'entraîne aux arts martiaux assez régulièrement, c'est parce que dès que vous bloquez, c'est même plus vous qui bloquez, c'est le réflexe du blocage du fait que le cerveau le fasse. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai que c'est aussi facile à dire, mais un backup sur une inadéquate post-attaque, c'est la même chose que le ransomware. Si vous m'écoutez ce que vous venez de faire et que vous en faites même la moitié, peut-être qu'un jour ça sauvera votre business et ça sauvera les salaires et évidemment les familles qui vont avec. Ça, c'est important à faire. Pour le port data management, bah là, le port data management, je sais pas quoi vous dire, moi, je comprends pas. Les gens, leur data, c'est leur vie, leur data, c'est les données, mais ils font pas de classification. Ils font pas de management de procédure. Ils font pas de gouvernance. Tout le monde a un peu tout et n'importe quoi dans ces trucs. Et je vous en parlais des meilleurs que, tiens, Edumonde a des cartes de crédit et des numéros de cartes de crédit un peu partout, ou des codes de NAS de machin, ou le Right Data, on sait pas pourquoi un des développeurs a un truc des RH qu'il aurait jamais dû avoir. Et puis il y a plein qui ont des accès des fois à des bases de données qu'ils devraient pas avoir, ou la fraude n'est pas protégée à soi. S'il vous plaît, si vous avez pas un data management correctement classifié, géré, Microsoft, par exemple, vous savez que je suis évidemment Azure et Microsoft, mais a quand même un outil qui s'appelle PureView, qui est le nouveau système de gouvernance pour gérer avec classification, PIM, DLP, data loss et autres. Qu'est-ce que tout ce qu'on vient de vous dire veut piquer? Ils veulent piquer vos data. Ils veulent justement soit ransomner vos data ou soit vous les piquer pour évidemment les revendre derrière. C'est les data. S'il n'y a pas de management de data, si n'importe qui peut avoir accès à n'importe quoi, bah, c'est à la fois à l'empoigne, vous donnez pas votre banque à n'importe qui non plus. C'est la même chose pour les data de l'entreprise. Et ça, le côté que le management du data soit pris un petit peu le right data, tel qu'on dit, hein. Il y a le big data et le right data. Puis l'emphasis aussi à faire oh là là, je fais de la machine learning avec de la merde parce qu'avant je la mettais au trash, mais maintenant je veux la faire. Faites attention, vos logs aussi récupèrent aussi des data que peut-être que dans les logs il devrait pas y avoir autant d'informations ou autant de choses qui circulent non plus. Donc faites attention aussi à ça, surtout quand des fois ça touche des assets assez importantes, les finances, le médical, j'en passe. Donc c'est toutes ces affaires là qui sont évidemment à voir, mais à date, c'est un petit peu ça qui ressort de 2023. Pour ma part, c'est vraiment les menaces qui sont évidemment à faire attention, que je retrouve en fait au quotidien un petit peu partout là où je travaille, et qui aujourd'hui, je pense, est même de surcroît mis en avant parce que, comme on dit, les assistants virtuels en IA générative aussi va être un cauchemar pour la cybersécurité aussi. La notion évidemment de l'industrie 4.0 va être aussi un cauchemar pour être géré aussi, parce qu'en plus les copy-pastes qui passent dans les teams, les chats, les bots automatiques, on ne sait même plus qui parle, est-ce que je parle vraiment à un humain, pas à un humain, et j'en passe, c'est des meilleurs. Les IA aussi qui sont comme Stable Diffusion open source, puis qu'on reprend le source, puis qu'on dénature un peu les choses à l'intérieur, puis qu'on croit que là c'est l'IA qui parle, mais là il va être manœuvré par tel et tel truc du complot, ou manœuvré où on va pouvoir faire du cul avec parce qu'on pourrait pas faire du cul avec avant, enfin bref. Et je vous parle même pas évidemment des appareils de cyber, appareils connectés by design, ça aussi c'est complètement aberrant. Faites attention, c'est tout ce que je peux vous dire, les menaces sont de plus en plus grandes, le spectre est de plus en plus large. Les notions de layers sont de plus en plus compliquées parce que c'est toujours la même chose en informatique, mais quand on connaît pas les layers de base, bah, dès qu'on en rajoute d'autres, c'est compliqué. Les LLM, tout le monde parle, ouais, Large Language Model. On sait pas trop vraiment ce que c'est, pourquoi, de quelle manière, comment ça fonctionne. Donc, est-ce que l'IA est bon? Est-ce qu'on parle d'IA, de ML, de statistique, probabilistique? Enfin, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, faites gaffe, les menaces perdurent. On a vu que 2023 était riche. Je crois que Nicolas rentrait de jeu de dire que 2024 va être encore pire, je pense, parce qu'en plus, on va passer dans une petite récession pas cool. Les choses vont augmenter. On sait pas trop ce que va faire la guerre, encore une fois. La moitié de la planète en 2024 est en élection, avec en plus des élections à la con du style Poutine et enfin surtout les Américains et compagnie. Donc, ça va faire son lot de choses là. Je sais pas comment on finira, si on se retrouvera avec Nicolas à la même date l'année prochaine, mais effectivement il va y avoir un lot sévère là-dessus. Donc restez vigilants, et puis toujours une fois, réduire, faire la bonne hygiène comme on dit, et puis écoutez les podcasts adéquats.
Ouais, augmenter la littératie numérique, la littératie en cyber, justement, qu'on soit capable, que les gens soient mieux outillés, pour être capable de se défendre face à cet élément-là. La désinformation, ou fake news, c'est rendu terrible.
C'est ça.
On n'a même pas abordé ces éléments-là, l'hygiène de base. C'est-à-dire, les quelques premiers éléments de la liste, pour moi, sont les plus importants, parce que les suivants s'appuient sur les premiers de toute façon. Donc, on est configurez c'est bien ça. Vos choses. Soyez vigilants face à les tentatives de manipulation. Surveillez vos choses, réduisez votre surface d'attaque. Arrêtez de vouloir exister. Est-ce que la planète vous voit? Soyez privé, soyez dans votre groupe, soyez avec vos amis, soyez dans la vraie vie. Mais là, j'ai l'air d'un vieux bonhomme qui dit ouais, allez vous perdre dans le bois, comme mes parents me disent quand j'étais tôt tannant. Ils disent va te perdre dans le bois, puis on te retrouvera au souper. Là. Ben, on a un peu perdu cet élément-là de va te perdre dans le bois, puis si tu reviens pas pour souper, on va te chercher. Là. Donc, ça, je pense qu'on a un peu perdu le
ben, c'est l'hygiène. Quand on parle d'hygiène, c'est aussi l'hygiène de l'écran. Hein. C'est l'hygiène aussi. Nous, en tant que professionnels, on en a des tonnes et on pas trop devant, mais l'hygiène de l'écran aussi pour les gens, c'est important. Alors c'est sûr aussi que si les parents sont devant les écrans, les enfants vont les suivre. C'est de la même manière à date. C'est tout un débat qui fait qu'à aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses qui passent aussi en plus sur le PC. Les gens regardent Netflix, regardent YouTube, regardent bref des tonnes et des tonnes de trucs à pu en finir. Mais dites-vous que on parle d'IA, mais les réseaux sociaux et Facebook, ils fonctionnent déjà avec de l'IA. Imaginez pour vous maintenir dans ce flux continuel de ce que vous avez pensé et il vous envoie dans ce flux continuel. Il va même pas vous choquer, il va vous faire dans ce flux continuel. À chaque fois, je dis aux gens, bah tiens, change de bout en bout en disant, tiens, t'es plus gauchiste mais t'es libéraliste, ou t'es plus, t'aimes plus le bleu, t'aimes le vert. Tu vas voir qu'il va te mettre que t'aimes le vert demain et que t'es vétiver, hein, ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, et c'est vrai que les quatre premiers de notre menace étaient les principaux, parce que bah, tout étant fake, plus ou moins, bah, y a des tonnes de choses à aller vérifier avec des faisceaux d'experts à faire, mais bon. En tout cas, ce qui permet de se dire qu'on a les moyens aussi avec les bonnes personnes, les bons forums, les bons podcasts, les bons systèmes, les bons sites aussi, et ça on les connaît plus ou moins tous, ou en tout cas avec les bonnes choses, dites-vous qu'avec un peu de jugeote et avec un peu de recul, même sans spécialement grosse technique, vous pouvez le faire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas non plus... Même déjà, nous, on en bouffe 12 heures par jour, c'est loin d'être facile. Donc, bref, pas simple d'avoir évidemment tout ça en main. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette revue avec vous et avec toi, Nico.
Énorme plaisir partagé toujours.
On se laisse sur ces bonnes paroles de vous revoir en 2024 avec pas mal d'idées de nouveaux podcasts. Et puis, on se retrouvera pour ceux qui sont au point. Je serai de renouveau au Sécure 2024, donc au plaisir de vous revoir en personne aussi. Voilà.
Absolument. Merci énormément. C'est très plaisant ce genre de conversation-là. Je pense qu'on essaie de faire bouger l'aiguille, comme ils disent en anglais. Move the needle. Oui, juste de réussir à faire avancer tranquillement de notre façon à améliorer les choses. Merci.
Petit à petit. Merci à toi, Nicolas. Et puis bonne fête de fin d'année à tous. Oui, bonne année et bon Noël. À bientôt.